Bonjour à vous tous. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Apocalypse, chapitres 2 et 3, on trouve là la description de l'histoire de l'Église, dans le fond. Les sept étapes de l'Église de Dieu depuis sa fondation au moment de la première venue du Christ sur la terre. Apocalypse 2 et 3. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une de ces étapes-là en particulier, qui est celle qu'on appelle l'ère de Philadelphie. Et le titre de mon message, c'est « Soyons philadelphiens ». Parce que justement, cette ère de l'Église doit être caractérisée par le fait d'être fidèle à Dieu, par l'amour que nous devons avoir pour nos frères et sœurs dans l'Église et pour les êtres humains, et pour le zèle qu'on doit avoir à changer et à accomplir l'œuvre des temps de la fin, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de la venue prochaine d'un autre monde sur la terre avec le retour du Christ. Alors ça, c'est l'Église de Philadelphie ou l'attitude philadelphienne qu'on doit s'efforcer d'avoir. Et je me réfère majoritairement dans le message que je vous donne aujourd'hui à un superbe message que j'ai entendu dernièrement de la part de M. Richard Ames sur le même thème, justement, où il nous invite à être prudents et à faire attention d'être vraiment zélés, d'être vraiment philadelphiens. Et c'est pas sans raison que je vous donne ça, parce qu'en même temps, je viens de voir que M. Meredith vient tout juste de faire un sermon sur le même thème au quartier général. Et ce sermon-là s'est envoyé à travers le monde. Alors, si deux évangélistes de Dieu au temps où nous sommes, dans les événements qui nous entourent actuellement, l'accomplissement des prophéties, si deux évangélistes importants de l'Église de Dieu parlent de ce thème-là, c'est parce que nous en avons besoin. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui m'inspirer de ce message-là de M. Ames et de vous parler du fait qu'on doit être philadelphien et de voir de quoi il s'agit à être philadelphien plus en détail. La dernière fois que M. Ames est venu au Canada pour une conférence ministérielle, il a été frappé de voir un exemple de certaines personnes qui ont un zèle vraiment philadelphien qui est frappant. Il nous raconte qu'au Canada, il y a des membres de deux congrégations qui font 4 heures de route pour aller à l'Assemblée de Sabbat. 4 heures de route pour aller à l'Assemblée de Sabbat. Ça, c'est un zèle philadelphien. Et moi, je me rappelle, lorsque nous sommes arrivés à l'Église, mon épouse et moi, dans les années 70, il y a longtemps, il y avait des familles qui voyageaient quelques centaines de kilomètres par sabbat pour aller à la Sainte Convocation, parce qu'il n'y en avait pas partout dans la province de Québec. Il y en avait à ce moment-là seulement à Montréal. Alors, il y a des familles qui partaient de très loin, même du Saguenay, pour descendre à Montréal pour aller aux assemblées, peut-être pas chaque semaine, mais le plus régulièrement possible. Et la même chose pour les gens des cantons de l'Est qui descendaient à Montréal. Et ça nous a fait énormément frapper. Mais ça, c'est l'attitude philadelphienne de quelqu'un qui a été appelé, qui a découvert la perle de Grand Prix et qui y tient, et pour qui c'est devenu la chose principale de sa vie. C'est vraiment frappant. Et Monsieur Ames, dans son message, donne l'inverse de ça. Un autre exemple qu'il a vu, qui est un peu attristant. Pas un peu, mais beaucoup. Lors d'une conférence du Monde de demain que Monsieur Ames a donnée au Texas, il raconte qu'il y a une personne qui est allée le voir après la conférence. C'était dans la ville de Houston, au sud de Houston. Et la personne est intéressée parce qu'elle a entendu. Et peut-être qu'elle avait déjà lu des choses de l'Église et tout ça, et elle voulait donner suite, ce qui est bien, d'observer son sabbat puis de venir à la Sainte Convocation qui fait partie de l'Assemblée de sabbat. Alors, la personne a demandé à M. Ames, à quelle place est-ce que vous avez vos réunions de sabbat? À quelle place que vous tenez vos Saintes Convocations? Alors, M. Ames lui a répondu, à Houston Nord, dans la partie nord de la ville. Alors, vous savez ce que la personne lui a répondu? Quand vous aurez une assemblée à Houston Sud, dites-le-moi, j'irai à la Sainte Convocation. Dans la même ville, la personne disait, non, je vais attendre qu'il y ait une assemblée pas loin de chez nous. Alors, voyez-vous, à ce moment-là, on voit que l'appel n'a pas de grand prix, là. La personne n'a pas de zèle, ne voit pas la richesse de l'appel de Dieu et tout ce que ça implique. C'est triste de voir ces choses-là, mais ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi que ça arrive de façon particulière à notre époque? Parce que nous vivons dans la dernière époque de l'Église. celle qu'on appelle l'époque de Laodicée. L'époque de Laodicée, qui est caractérisée, elle, comme on le voit dans les textes, par la tiédeur, par la mollesse, par la négligence. Et c'est un peu l'air du temps qu'il y a dans la société autour de nous, partout sur la planète. Et l'Église en est affectée. On vit à l'ère de Laodicée, où les gens ne sont pas disposés souvent à faire les efforts nécessaires pour adorer Dieu. Ils ne sont pas disposés à faire les efforts nécessaires pour adorer Dieu. Les églises de Dieu sont présentement, par contre, et ça, il faut le réaliser, sous le jugement de Dieu. Dieu ne juge pas le monde actuellement. Il n'examine pas le monde actuellement. Dieu sait que l'ensemble de la société n'est pas appelé. C'est lui qui ne les appelle pas. Il va les appeler après le retour de Christ. Par contre, ceux que Dieu appelle maintenant sont sous le jugement de Dieu, c'est-à-dire sous l'examen de Dieu, pour voir qu'est-ce que ces gens-là font avec ce que Dieu leur a révélé. C'est ça. Et quand vous allez voir dans 1 Pierre 4, verset 17, l'apôtre Pierre dit bien ceci, « Car c'est le moment où le jugement, c'est-à-dire l'examen de Dieu, va commencer par la maison de Dieu. » Non pas par l'ensemble de la société, mais par la maison de Dieu. Alors comprenez-vous pourquoi il faut nous examiner pour avoir un cœur selon Dieu, pour vraiment plaire à Dieu et nous assurer d'avoir l'approche qui plaît à Dieu, c'est-à-dire l'attitude philadelphienne. Notre ancienne organisation d'où nous sommes issus, l'Église universelle de Dieu, à un moment donné, s'est mise à rejeter tout ce qui a rapport à l'obéissance à Dieu. Les plus anciens parmi nous qui étions là, on se rappelle de ce qui s'est passé, le choc que ça a donné. Parce que les dirigeants de l'Église ont commencé à dire que les lois n'étaient plus ce qu'elles sont indiquées dans la Bible, qu'on doit vivre sous une autre forme d'agir et ainsi de suite, comme si les lois de Dieu n'étaient plus en vigueur. Ils prétendaient que le fait d'obéir à Dieu, c'était vouloir être sauvé par nos œuvres. Mais ça, c'est un faux raisonnement. Je vais vous montrer pourquoi. C'est pas le cas. Parce que c'est bien clair que nous devons aimer Dieu. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'on ne doit pas aimer Dieu? Mais qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Quand vous allez voir dans la Bible, dans 1 Jean 5, verset 3, ça ne peut pas être plus clair. Dieu définit exactement qu'est-ce que c'est que l'aimer, et Dieu veut qu'on l'aime. Hein? Le Christ a répondu à la personne qui lui demandait quel était le plus grand des commandements. Il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ainsi de suite, et ton prochain comme toi-même. » Mais le point de départ, c'est l'amour de Dieu. Alors, dans 1 Jean 5, verset 3, il est clairement défini, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Ça ne va pas plus loin. Donc, ses commandements ne sont pas abolis. Et si on aime Dieu, on s'applique à mettre en pratique ses commandements, tels qu'il nous les a donnés. Je reviens à ça. Nous sommes, par contre, dans la dernière époque de l'Église, dans la dernière étape de l'Église, l'Église de Laodicée. Et si vous avez encore en main la littérature qui a été produite par M. Herbert Armstrong, qui était en tête de l'Église il y a quelques années, M. Armstrong décrit très bien les 7 ères de l'Église, les 7 étapes historiques de l'Église. Et chacune de ces étapes-là, comme vous verrez dans Apocalypse 2 et 3, est caractérisée par des traits particuliers. Et ces églises-là, sauf l'Église de Philadelphie, se voient reprocher des choses majeures. Mais M. Armstrong expliquait que c'est vrai, oui, pour une étape de l'Église, mais c'est vrai en même temps pour l'ensemble des étapes de l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les traits caractéristiques négatifs des autres églises et de voir si ça ne s'applique pas à nous, pour être certain qu'on n'ait pas ces attitudes mauvaises, mais qu'on se serve de ça comme d'un moyen de vraiment plaire à Dieu. Nous voulons être philadelphiens, même si nous sommes à l'époque de Laodicée, c'est-à-dire qu'on veut avoir le même zèle que l'Église de Philadelphie, même si nous sommes à l'époque de l'Église de Laodicée. OK? L'Église négligente ou l'Église qui est tiède. Parce qu'on a une mission à accomplir. Et il faut s'y consacrer à cette mission-là. Que ce soit le ministère ou que ce soit les membres. De deux façons différentes. Les ministres ont à prêcher l'Évangile. Les membres ont à soutenir ces efforts-là et à être eux-mêmes un exemple de la façon de vivre que Dieu nous enseigne dans sa parole. Alors, on vit à une époque où c'est l'époque de l'Odyssée, mais on doit avoir le zèle de Philadelphie. Et on a une mission merveilleuse à accomplir, celle d'avertir les nations de ce qui s'en vient, de leur dire qu'il faut changer nos voies et que c'est encore possible de le faire. Et que pour ceux qui sont appelés, ils peuvent se convertir, ils peuvent venir à l'Église, être baptisés, recevoir le Saint-Esprit et ensuite faire partie de la famille de Dieu et même être sous la protection de Dieu dans les temps plus difficiles qui viennent. On a une mission extraordinaire à accomplir. Et dans ça, nous préparons le retour de Christ. Je ne sais pas si vous le réalisez vraiment. En faisant ça, nous sommes en train de préparer le retour du Créateur, le retour du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. On a un but qui est précieux et un but qui est précis. On a une mission qui nous a été confiée. Et à chaque jour, on prie avec beaucoup d'intensité pour demander à Dieu que son règne vienne. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la seule solution aux problèmes du monde. Et quand on regarde autour de nous, dans les bulletins de nouvelles, on voit l'horreur augmenter dans toute la souffrance qu'il y a sur la planète, un peu partout. Le sang qui coule, les enfants qui sont affamés, qu'on laisse mourir, les guerres, tout ce que vous voulez, la corruption à tous les niveaux, on le voit. Et ça nous fait supplier Dieu de plus en plus que son règne vienne. Est-ce que la Bible ne dit pas que ses élus crient à lui jour et nuit pour que ça cesse? C'est notre rôle. Ça fait partie du travail qu'on a à faire. Mais nous vivons à l'époque de l'Odyssée. Et ceux qui ont l'attitude de l'Odysséenne, c'est que pour eux, ça prend moins d'importance. En autant qu'ils sont bien eux, ils ne se préoccupent pas tellement des autres. Alors que nous, notre devoir, c'est de nous préoccuper des autres. Allons voir dans Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3. Voyons cette église tiède de l'Odyssée que le Christ évalue. Verset 19, Apocalypse 3. C'est le Christ qui parle. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Donc, cette église-là ou ce groupe de croyants-là, qui sont des gens qui appartiennent à Dieu, qui ont été appelés, qui ont été choisis par le Christ, mais qui ne sont pas à la hauteur de leur appel. Il dit « Repens-toi, aie du zèle, parce que tu n'en as pas assez. » Alors, voyez-vous que moi, je dois me poser cette question-là. Est-ce que je suis tiède? Est-ce que j'ai assez de zèle? Et si j'en ai pas assez, il faut que je demande à Dieu d'avoir la force nécessaire. Ça nous vient de lui. Ce n'est pas notre force, c'est la force de Dieu. Allez à Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 12. Regardez ce que Paul dit ici. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Est-ce que la loi est abolie? Paul dit « Comme vous avez toujours obéi, continuez de le faire. » L'obéissance, c'est un trait caractéristique d'un vrai Philadelphien. Il n'est pas parfait, le vrai Philadelphien, mais il s'efforce de le devenir et il se purifie à mesure que le temps passe. Nous voulons faire ce que Dieu dit. Si c'est ce que je veux faire de tout cœur, je suis Philadelphien. Et regardez ce qu'il dit après. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Oui, parce que toute notre vie, elle repose là-dessus. Pas seulement notre vie physique maintenant, qui est temporaire, éphémère, de courte durée, mais notre vie éternelle, parce que nous n'avons pas encore la vie éternelle pleinement. Même si nous avons reçu, ceux qui ont été baptisés et qui ont eu l'imposition des mains, un dépôt du Saint-Esprit. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le salut par les œuvres, le fait de travailler avec crainte et tremblement à notre salut? Absolument pas. Regardez la réponse, elle est au verset 13. Ça vient pas de nous, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si vous manquez de volonté, demandez cette force-là à Dieu et il va vous la donner. Il va vous donner la volonté, il va vous donner le zèle, ce dont vous avez besoin pour vous repentir si vous avez à vous repentir à ce sujet-là. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans Apocalypse 3, verset 19. « Aie donc du zèle et repens-toi. » Une caractéristique d'une personne convertie, je vais plus loin, c'est d'être capable d'accepter d'être corrigé. d'accepter d'être corrigé. Et c'est logique. Si je ne fais pas ce que Dieu me dit de faire, que je ne le vois pas, mais que quelqu'un me corrige, c'est pour mon bien, c'est pour que je voie les choses que je dois faire pour plaire à Dieu et pour arriver au salut. C'est pas négatif, au contraire. Mais voyez-vous, il faut que j'aie l'attitude que je sois capable d'accepter d'être corrigé. Je peux même demander à Dieu, et je le fais. Montre-moi les choses que j'ignore, que je dois changer. Et Dieu va nous le montrer, vous allez voir, Dieu répond à ces choses-là. Parce qu'il veut qu'on arrive au but. Il ne veut pas qu'on perde notre route et qu'on manque le salut. Parfois, on est corrigé par la Bible. Hein, quand on fait notre étude biblique chaque jour, à un moment donné, on arrive sur des passages, puis on dit, « Oups, il y a quelque chose ici qui m'interpelle, que je ne fais pas exactement. » Et là, on fouille davantage, on demande à Dieu de nous montrer. Alors, la Bible nous corrige. Parfois, c'est l'Église, c'est un ministre qui va nous corriger. Ça m'est arrivé, et ça va m'arriver encore, qu'un ministre me fasse remarquer que j'ai besoin de changer sur telle chose. Mais il faut que j'aie l'attitude d'accepter d'être corrigé. Non pas dire, non, mais c'est pas comme ça, c'est pour telle raison que je fais ça, que me justifier. Tous les gens qui ont toutes les raisons de faire ce qu'ils font, la meilleure raison qu'ils ont, c'est qu'ils se justifient. Ils veulent pas accepter de changer. Dites-vous que dès que quelqu'un s'approche de vous pour vous faire penser de changer quelque chose, mais que vous trouvez toutes les raisons pour ne pas le faire, vous êtes en train de vous justifier et vous ne voulez pas changer. Comprenez-vous pourquoi c'est si important d'avoir l'attitude d'accepter d'être corrigé? Parfois, c'est par un frère dans l'Église. Ça m'est déjà arrivé, ça vous est peut-être déjà arrivé, j'espère. Parfois, les frères entre eux vont se faire penser que fais attention à telle chose parce que, bon, peut-être que tu exagères un petit peu quand tu prends de la boisson, que tu ne devrais pas aller dans cette direction-là comme tu fais. Entre frères, on peut s'aider dans ce sens-là ou sur d'autres points aussi. Parfois, ça peut être par quelqu'un qui n'est même pas dans l'Église, qui va nous faire remarquer un défaut qu'on a ou quelque chose qui crée du négatif autour de nous. Il faut être capable de remercier même cette personne-là, de réfléchir à ce qu'elle nous dit, au lieu de réagir tout de suite sur le coup et dire « non, c'est pas vrai » ou « je le fais pour telle raison ». Examinez ce que l'autre vous amène à considérer. Parce que c'est peut-être un moyen que Dieu utilise pour que vous appreniez à changer certaines choses. Ne tentons pas de nous justifier. Vous irez voir à l'Apocalypse 2 et 3, les sept ères de l'Église. Vous allez voir, par exemple, que chacune est caractérisée par un trait négatif. L'Église d'Éphèse, par exemple, la première, après la mort du Christ, elle est caractérisée par son manque d'amour. Hein? Le Christ lui dit, t'as oublié ton premier amour. T'as considéré ça comme moins important. Smyrne, c'est l'Église persécutée. On ne voit pas beaucoup de négatifs parce qu'elle a été vraiment persécutée. La troisième, Pergame, elle a fait des compromis et Dieu lui reproche. Thyatire, c'est l'Église corrompue. Sardes, là où M. Armstrong est venu, c'est l'Église que Dieu dit, elle est morte. Il y a seulement quelques hommes qui marchent en vêtements blancs. Elle est morte, elle était morte. L'Église de Philadelphie, par contre, c'est l'Église fidèle et qui a commencé sous M. Armstrong. Cette époque-là, elle est finie comme telle, mais il faut continuer à avoir l'attitude philadelphienne pour accomplir l'œuvre et être jugé digne des choses qui s'en viennent. La dernière église, la dernière étape, par contre, c'est Laodicée, la tiédeur. Alors, la question que je peux me poser, je peux me comparer à ces caractéristiques-là et dire, est-ce que je suis tiède? Et je peux me dire, par exemple, est-ce que je suis tiède? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je vais à l'Église mécaniquement, en parlant de la Bible à l'occasion, puis en me réjouissant avec les autres, mais que je ne suis pas vraiment là et que mon cœur n'est pas là. Est-ce que je manque d'amour, comme la première Église? Est-ce que j'ai perdu l'enthousiasme de mon premier amour? Si oui, je peux demander à Dieu de me le redonner pour que je le retrouve. Alors, voyez-vous, je peux me questionner par rapport à ça. Maintenant, on va voir de plus près les traits de Laodicée pour vérifier si ça peut s'appliquer à nous. Et c'est important qu'on le fasse. Parce qu'oubliez pas, on est dans cette ère-là. Et l'atmosphère, l'air du temps autour de nous, nous prédispose à ce genre d'attitude. Apocalypse 3. Lisons à partir du verset 14, où justement l'Église de Laodicée est décrite. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Alors donc, verset 14 et verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Autrement dit, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, mais que ce soit clair. Vous savez, les activités de notre vie, nos œuvres, nos fruits, c'est ce qui démontre quel est notre caractère. Ça démontre quel est notre caractère, ce qu'on a à développer. Dieu veut qu'on développe son caractère à travers les expériences qu'il nous donne de vivre. Et ça démontre si on a ou non le caractère que Dieu veut que nous ayons ou que nous soyons en train de développer, disons. Si ce n'est pas le cas, si je suis un appelé de Dieu, que j'ai reçu son Saint-Esprit, mais que je considère ça à la légère, que je pense que j'ai eu tout ce qu'il me fallait, que je sais ce qui s'en vient, je connais la Bible, je l'ai lu à quelques reprises, même d'un couvert à l'autre, je peux en parler avec plein de monde, je peux citer des versets, mais que mon cœur n'est pas là, que je ne suis ni froid ni bouillant. Et regardez ce que le Christ dit ici, verset 16, et c'est effrayant. « Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je te vomirai de ma bouche. C'est le Christ qui parle, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, c'est le Roi des Rois. Et quand on connaît les textes, on sait que c'est par amour qu'il va le faire pour donner une dernière chance à ces gens-là de se repentir dans la grande détresse, dans le feu de la grande détresse. C'est pour ça qu'il nous faut changer. Verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Et cet or éprouvé par le feu, ce sont les épreuves de la grande détresse qui vont venir. Il dit, ce sera l'occasion pour toi, à ce moment-là, d'acheter ce qu'il faut, mais à travers l'épreuve. Donc, de devoir payer le prix, de devoir prouver à Dieu, dans ces circonstances-là, que vous voulez vraiment lui appartenir, de tout zèle, de tout cœur. D'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Et vous savez, il faut voir clairement. Dieu nous appelle, il nous révèle son mystère, le grand mystère des siècles, et il veut que nous le voyions, que nous voyions ses lois, que nous en vivions. Pour ça, il faut appliquer ses lois dans notre vie. Et si on le fait, plus on le fait, plus on voit clairement son plan. Plus on voit clairement qu'on peut compter sur lui dans toutes les circonstances. Et plus on le voit intervenir parce que ça lui plaît de nous voir désirer faire sa volonté et compter sur lui. Verset 19, on l'a vu tantôt, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si vous voyez ce que ça veut dire ici, c'est tellement encourageant, même pour les gens qui seront obligés de passer par la grande détresse, c'est que Jésus est là pour chacun de nous. Il ne veut pas abandonner personne. Et il veut faire tout ce qu'il peut faire pour que la personne se rende à terme. La seule personne qui peut empêcher cette personne-là d'atteindre le but, c'est elle-même. Si elle ne passe pas l'épreuve, si elle ne se soumet pas entièrement à Dieu, et si elle ne montre pas à Dieu, par sa façon de vivre, ce zèle et cet amour qu'elle doit avoir. Le Christ ne veut pas que personne d'entre nous ne se perde. Malheureusement, comme la Bible nous montre, il y en aura qui auront perdu et qui seront dans les temps de feu après. Verset 21. Celui qui vaincra, voyez-vous, il n'y a pas de demi-mesure. Avec la puissance de Dieu, c'est possible. Mais il faut travailler là-dessus. Travailler à votre salut, on l'a vu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous devons vaincre, quelles que soient nos faiblesses. Nous devons vaincre, quelles que soient nos faiblesses. Et on ne peut pas en laisser de côté en disant, je vais vaincre celle-là, mais je ne vaincrai pas les autres. La victoire doit être sur toutes nos faiblesses. Donc, il faut nous examiner à la lumière des caractéristiques de chaque ère de l'Église, comme je vous ai mentionné. C'est intéressant de voir le commentaire qui a été fait par un archéologue il y a très longtemps. Le monsieur s'appelle William Ramsey. Il a publié un livre en 1904 sur les sept ères de l'Église de Dieu. du Nouveau Testament. Et sous le chapitre « Laodicée, une ville de compromis », il dit ceci, il décrit la ville qu'il y avait à l'époque. Parce qu'au moment où l'apôtre Jean a écrit le livre d'Apocalypse, les sept villes en question existaient. C'était un circuit commercial avec les voies romaines. Et c'était aussi un circuit postal à l'époque. Il se réfère à ces villes-là. Alors, cet archéologue-là a fait des recherches et il décrit les caractéristiques physiques de ces villes-là. Et c'est intéressant de voir les liens qu'on peut faire avec l'ère de chacune de ces villes-là qui représentent dans la Bible une étape ou une époque historique de l'Église de Dieu. Alors, le monsieur Ramsey dit ceci concernant Laodicée. Il n'y a pas de ville dont l'esprit et la nature soient plus difficiles à décrire que Laodicée, la ville de Laodicée. Elle ne connaissait pas d'extrême et pas vraiment de très fort. Mais c'est dans ce flou que réside son caractère particulier. C'est cette atmosphère qui faisait d'elle une ville de commerce florissant, une cité de banquiers, de finances, qui pouvait facilement s'adapter aux désirs et aux besoins des autres autour. Voyez-vous, la ville s'adaptait aux autres. Elle n'avait pas ses propres principes, autrement dit. C'est moi qui fais la nuance ici. Elle s'adaptait à tout ce qu'il y avait, autrement dit, pour que ça marche, pour que son commerce soit florissant. Il continue en disant ceci, « Toujours malléable et accommodante, remplie d'esprit de compromis. » C'est fascinant de voir que Dieu a inspiré l'apôtre Jean pour dire que la dernière étape de l'Église, l'Église de Laodicée, serait une étape de compromis, de négligence, de faire pour plaire autour, de ne pas paraître différent des autres autour. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui font des compromis avec les lois de Dieu. Et on a vu ça dans notre propre organisation autrefois, dans notre ancienne organisation de l'Église universelle de Dieu. Et même aujourd'hui, c'est M. Ames qui l'explique, certaines églises issues de l'Église universelle de Dieu tolèrent dans leur rang des gens qui pratiquent le péché. Tolèrent dans leur rang des gens qui pratiquent le péché, prétendant aider ces individus en tolérant leur péché et en n'intervenant pas pour leur montrer la voie qu'il faut faire, qu'il faut adopter pour changer. Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que son Église fasse? Laisser les gens faire comme bon leur semble, sans leur montrer les lois de Dieu. C'est notre responsabilité, au contraire. Et rappelez-vous, Paul a dû corriger l'Église de Corinthe pour une raison bien précise, dans le même sens que ce que je vous mentionne, parce que l'Église faisait des compromis. Les gens de l'Église de Corinthe se pensaient éclairés, se pensaient plus fins que Dieu, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, il y a des églises issues de l'Église universelle de Dieu qui se croient éclairées parce qu'elles tolèrent des fautes sexuelles qui se continuent dans leur Église, comme à Corinthe. C'est révélateur et il faut comprendre ces choses-là. Nous aimons le pécheur. Parce que Dieu veut qu'on aime tous les êtres humains, mais on n'aime pas le péché. C'est ça. Et Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Il veut qu'on change, qu'on cesse de se faire mal et de faire mal aux autres. Et qu'on soit purifié de nos fautes et qu'on ait accès à la vie éternelle. Nous aimons le pécheur, mais on ne tolère pas et on n'approuve pas le péché. Dans l'Église de Dieu, nous ne tolérerons pas la continuation de la pratique du péché. Quelqu'un qui pratique le péché. Comme ça a été le cas dans l'Église où Paul a dû intervenir. Allez à 1 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 5. Certaines églises du monde et même certaines églises de Dieu permettent que des situations de péché continuent sous prétexte d'aider ces gens-là. Et encore là, vous allez voir le faux de ce raisonnement-là. Sous prétexte d'aider ces gens-là. Ce n'est pas ce que Paul a fait à Corinthe. Absolument pas. Comment est-ce que Paul a aidé celui qui commettait un tel péché à l'Église de Corinthe? Regardez, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 et début du verset 2. « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous, » Paul s'adresse aux gens d'Église de Corinthe, « de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » C'était pas sa mère, c'était sa belle-mère, la deuxième épouse de son père. Et regardez ce que Paul dit après ça de ces gens-là. « Et vous êtes enflés d'orgueil, parce que vous tolérez ça, vous laissez faire, vous êtes enflés d'orgueil, vous, les membres de l'Église de Dieu à Corinthe. Vous êtes enflés d'orgueil parce que vous pensez que vous êtes éclairés, que vous savez quoi faire, que vous devez laisser passer les choses. C'est une sorte d'orgueil, ça, d'accepter le péché en laissant croire qu'on sait mieux que Dieu qu'est-ce qui doit être fait. Alors que Dieu condamne ça et que Dieu dit « Enlevez du milieu de vous celui qui continue de pratiquer le péché. » Si vous décidez autrement, c'est que vous avez l'orgueil de vouloir faire les choses comme vous voulez. Et si ça nous arrive, si ça arrive à quelqu'un d'être dans un tel état d'esprit, la personne, elle est vraiment affectée. Comme l'Église de Corinthe, elle était en train d'être contaminée par cette attitude-là ou cette approche-là, si vous voulez. Verset 2 et verset 3. « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Soit ôté du milieu de vous. C'est bien clair. Pour moi, étant absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Donc, j'ai évalué la situation. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Alors, voyez-vous, Paul, il dit, il faut que cette personne-là soit exclue de l'Église, en espérant qu'elle va changer. C'était ça le but de l'opération. Que la personne réalise qu'elle était dans son tort et qu'elle change, qu'elle puisse avoir l'occasion de changer. Voyez-vous, Paul l'a pas dit du tout, là. Écoutez l'Église de Corinthe, là. Il y a un homme qui vit avec la deuxième femme de son père, sans être marié et tout ça, qui vit en adultère, en concubinage et tout ça. Mais soyez gentil avec la personne, soyez patient avec la personne, montrez-lui de l'affection et gardez-la au milieu de l'Église. Gardez-la au milieu de vous et qu'elle continue à pratiquer le péché. C'est pas du tout ça que Paul leur a dit, hein? Absolument pas. Il a condamné cette immoralité sexuelle-là et ça s'applique à toutes les autres immoralités ou les autres transgressions qui puissent être faites dans l'Église et qui doivent changer, sur lesquelles les gens doivent changer. Verset 4. Regardez dans quelle autorité Paul parle. « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Et on voit par ça que l'homme n'était pas encore converti, qu'il n'avait pas été baptisé, qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Paul dit « Laissez-le aller. » S'il doit mourir là-dedans, il aura sa chance lors de la deuxième résurrection, tout simplement. Mais que ça lui serve de leçon pour qu'il ait vraiment accès au salut, qu'il ne perde pas son salut éternel. Et ça a été quoi le résultat de cette action dans l'Église? On peut le voir dans 2 Corinthiens chapitre 7. Je ne m'y reporterai pas, mais 2 Corinthiens chapitre 7 en parle. C'est que l'homme en question, après qu'il a été exclu de l'Église, a regretté d'avoir transgressé les lois de Dieu. Il s'est repenti, il a changé et il a été réadmis dans l'Église, tout simplement. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'Église était en faute, elle devait se repentir, elle s'est repentie. L'homme qui était en faute, qui continuait à pratiquer le péché, s'est repenti, il a cessé de pratiquer ce péché-là et il a été réadmis dans l'Église, tout simplement. C'est formidable. Là, c'était correct. Voyez-vous, il y a une différence entre quelqu'un qui vit du péché, qui le pratique continuellement, et nous tous, à qui il arrive malheureusement de temps à autre de tomber. Mais on demande tout de suite pardon, puis on prend les moyens nécessaires pour ne plus tomber. C'est toute la différence, ça. C'est pour ça qu'il faut s'examiner puis s'assurer qu'on ne garde aucun péché pour en vivre, pour le pratiquer de façon continue, qu'on ne garde aucun péché particulier. Dieu veut que nous ne tolérions pas le mal, absolument pas ce qui est mauvais. C'est frappant de voir parce que dans la revue Times du 19 septembre 2013, il y a une déclaration du pape François. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus parce que ce n'est pas anodin. Ça semble anodin. Mais je voudrais vous montrer que cette grande église-là est en train de s'en aller directement à l'encontre des lois de Dieu encore davantage. Après avoir changé la loi concernant le sabbat pour la transférer au dimanche, ce qu'elle n'avait pas l'autorité de faire, maintenant, cette Église-là est en train de rejeter clairement d'autres lois de Dieu. Je vous cite ce que le pape a mentionné dans cet article-là. Il dit ceci, « Dans le service aux gens, la religion a le droit d'exprimer son opinion, mais dans sa création, Dieu nous a donné la liberté. » Bon, jusque-là, ça semble pas si mal, malgré que « opinion » est léger comme mot ici. Parce que l'Église a davantage que la possibilité d'exprimer une opinion. Elle a non seulement le droit, mais le devoir d'annoncer à Israël ses iniquités. Qu'est-ce que la Bible dit? Élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités pour qu'il change et qu'il ne souffre pas. Alors ça, c'est la responsabilité des vrais serviteurs de Dieu. Alors déjà, dans le début de la phrase, il y a des choses qui nous, qui nous laissent un petit peu sceptiques. Dans le service aux gens, la religion a le droit d'exprimer son opinion. Mais dans sa création, Dieu nous a donné la liberté. Ça, c'est vrai. Et regardez le dernier bout de phrase. Il n'est pas possible d'interférer spirituellement dans la vie d'une personne. Je répète, ça vaut la peine. Il n'est pas possible d'interférer spirituellement dans la vie d'une personne. Si c'est la vérité, Paul s'est trompé en intervenant dans la vie de cet homme-là à Corinthe, quand il a dit que cet homme-là doit être enlevé de l'Église pour lui donner une chance de se repentir. C'était pas une opinion, c'était basé sur la loi de Dieu. Et j'ai entendu dernièrement concernant la fameuse fête de la Saint-Valentin que le pape avait reçu des milliers de personnes, des gens qui voulaient éventuellement trouver âme sœur ou qui avaient commencé à trouver âme sœur, et il invitait les gens à l'église, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou non en concubinage. Ça commence à être un petit peu à l'encontre des lois de Dieu, même beaucoup à l'encontre des lois de Dieu. Alors, voyez-vous, on voit ces choses-là se profiler à l'horizon. Est-ce que vous avez bien saisi? C'est pas ce que Paul a dit à l'Église de Corinthe de faire. Paul est intervenu. Paul a interféré spirituellement dans la vie de cette personne-là, pour le bien de cette personne-là, puis pour le bien de l'Église également. Aujourd'hui, il y a certaines Églises de Dieu, issues de l'Église universelle de Dieu, parce que vous savez qu'il y a plus de 300 groupes qui ont sorti de l'Église universelle de Dieu, qui se sont formés des petites églises à gauche et à droite, certaines avec un plus grand nombre de personnes même. Mais il y a certaines des églises de Dieu qui tolèrent le péché, je l'ai mentionné tantôt, qui tolèrent le péché dans leur congrégation. Et M. Ames, dans son sermon, rapporte une expérience qu'il a vécue avec M. Winhale. Ils ont rencontré les dirigeants d'une de ces églises-là, un des grands groupes issus de l'Église universelle de Dieu. Et M. Winhale demandait comment ça se faisait qu'ils toléraient certaines choses à l'intérieur de l'Église. Et ces dirigeants de cette Église-là ont dit, « Nous avons un large parapluie. Nous avons un large parapluie dans notre groupe. » Autrement dit, « Nous permettons dans nos rangs une grande variété de croyances. » Nous permettons dans nos rangs une grande variété de croyances. C'est fort, là, dans l'Église de Dieu. Nous constatons donc, et c'est M. Ames qui parlait à ce moment-là, nous constatons qu'ils acceptent aussi une grande variété de comportements qui ne sont pas approuvés par les Écritures. Ça commence à aller loin. On a vu qu'une des églises dans l'histoire était une église morte. C'était l'Église de Dieu pareil. Alors, il y a des groupes qui sont quand même l'Église de Dieu, mais qui se sont tellement éloignés, qui sont en train de mourir ou qui sont séparés de la vérité ou qui s'éloignent encore plus et qui vont devoir se repentir. Qu'est-ce que Paul dit? Regardez 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 10. On va retourner voir ce que dit Paul, et c'est très clair. 1 Corinthiens 1, verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Il doit y avoir unité dans l'Église, unité de langage, unité d'esprit, unité de comportement, même si on n'est pas parfait, même si on n'est pas tous rendus au même point, au même niveau. Tout le monde change à des variations de niveau ou de situation, mais tout le monde doit être en train de changer. Et ça doit être une unité aussi. À tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voyez-vous, à partir de là, on voit qu'il est clair que quand il est question de doctrine de base dans l'Église, de nos croyances, des commandements de Dieu, de ses lois, nous devons tous avoir le même langage. Il n'y a pas possibilité d'aller autrement parce que la loi de Dieu est noire sur blanc. C'est clair. Ce sont des croyances fondamentales. On peut avoir des opinions personnelles sur plein d'autres choses. Vous pouvez aimer plus telle sorte de voiture que moi. Vous pouvez aimer certains mets davantage que moi, dans les mets qui sont permis par Dieu. Ça n'a aucun... ça ne crée aucun problème spirituellement. On peut avoir des divergences là-dessus. Sur la question des loisirs, certains vont aimer tel genre de loisirs, d'autres genres de loisirs. Mais pour ce qui est du cœur de la vérité de Dieu qui est enseignée dans la Bible, on doit avoir une unité de langage et une unité d'action. Unité de langage et unité d'action. C'est pas pour rien qu'on réalise à un moment donné que de toute éternité, le gouverneur de l'univers et son porte-parole qui est devenu le Christ ont vécu toujours dans une harmonie parfaite, une unité parfaite. Et nous, nous sommes appelés à développer cette unité-là, à penser comme eux. Et on va devenir dans la même famille, on va naître un jour dans la même famille en tant que les enfants de Dieu. Et on goûtera cette unité merveilleuse, cette harmonie parfaite. C'est triste de voir des groupes issus de l'Église universelle de Dieu qui tolèrent une grande variété de croyances comme ça. Des croyances qui ne sont pas totalement, parfois, selon les Écritures, ou qui sont même, dans certains cas, complètement contraires aux vrais enseignements de la Bible. Ça va loin. Complètement contraires aux vrais enseignements de la Bible. L'Église du Dieu vivant, je le répète, ne tolère pas la pratique continue du péché. On avertit les gens, et s'il y a des choses qui doivent être changées, on les aide, on leur dit quoi faire, comment faire, mais les gens doivent passer à l'action. Et c'est dans leur propre intérêt. Voyez-vous, Dieu veut que nous pratiquions quoi? La justice. Pas notre justice, la justice de Dieu qui concerne ses commandements. Dieu veut que nous pratiquions la justice, il ne veut pas que nous pratiquions le péché, qui est le contraire de la justice de Dieu, tout simplement. Alors, si on pratique le péché, comment dire qu'on appartient à Dieu ou qu'on continue vraiment à être proche de lui? C'est pas possible. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et regardez le verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a une différence qui s'établit clairement à partir de là. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, ni celui qui aime son frère. Voyez-vous, c'est clair, c'est un ou l'autre. Alors, il nous faut travailler dans la direction de Dieu à faire vraiment sa volonté. Et regardez le verset 7, juste un peu avant. Petits enfants. Moi, j'aime ça quand l'apôtre Jean parle de cette façon-là. Il parle comme un bon grand-papa là, qui s'adresse à ses petits-enfants puis qui veut les aider. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice, qui met en application les commandements de Dieu, il est juste. Et vous savez, plus vous le faites dans votre vie, plus vous développez de le faire, plus ça devient votre vie. Plus vous devenez la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est le reflet de ce qu'il est. Et plus je vis de cette loi-là moi-même, plus je deviens la loi de Dieu. Et plus je deviens comme Dieu, ça s'intègre à ma conduite habituelle de plus en plus. Et ça devient naturel à un moment donné. C'est pour ça que c'est écrit dans Éphésiens 5 et le verset 11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, vivez selon les lois de Dieu. Ne pas faire de compromis avec des idées, des enseignements, des comportements qui ne sont pas selon Dieu. Nous sommes appelés à vivre différemment de ce que nous vivions avant. On n'a pas à critiquer les autres ou à les condamner ou à les mépriser parce qu'ils ne font pas ces choses-là, parce qu'ils ne sont pas appelés pour l'instant. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous, on doit vivre différemment de ce que nous vivions avant parce qu'on faisait les mêmes choses qu'eux font autour. Maintenant, on sait mieux et il faut agir selon ce que nous savons, vivre différemment. Dr. Winnell a écrit dans le Living Church News de janvier-février 2006 concernant Laodicée. Il dit ceci, « Le blâme adressé aux Laodicéens, c'est leur attitude de tiédeur. Leur richesse et leur prospérité les encouragent à une attitude mondaine. » Et même quelqu'un de pauvre, au point de vue monétaire, peut se penser riche spirituellement et ne pas vraiment appartenir à Dieu. Parfois, certains peuvent se croire immunisés parce qu'ils sont pauvres financièrement et disant, mais parce que je suis pauvre financièrement, c'est sûr que je plais à Dieu. Absolument pas. On peut déplaire à Dieu, quelle que soit notre circonstance, quelles que soient nos circonstances. Ils sont tièdes concernant la vérité, concernant l'obéissance au commandement. Il n'y a pas cette urgence de changer. Et concernant leur mission d'accomplir une œuvre. Ils sont très indépendants et n'ont besoin de rien. Certains Laodicéens ne ressentent pas le besoin d'avoir des ministres même. Ça dérange les ministres. Mais oui, parce que dans certains cas, ça corrige. Et quand ça corrige, ce n'est pas intéressant. Par contre, c'est utile. Moi, ça m'a rendu vraiment service dans le passé et ça va me rendre service encore sûrement. Certains ne ressentent pas le besoin d'avoir de gouvernement dans l'Église. Ils veulent avoir une autre forme de gouvernement que le gouvernement de Dieu. Certains ne ressentent pas le besoin d'avoir une structure ou une unité doctrinale. La ville de Laodicée avait une école médicale consacrée aux problèmes de la vision. Intéressant. Et la Bible décrit les Laodicéens spirituels comme étant aveugles concernant leur condition spirituelle. Leur sophistication intellectuelle les empêche de voir leur manque de discernement spirituel. Oui, ils sont enflés d'orgueil. Ils connaissent, ils savent. Ils n'ont pas besoin de changer tellement. Ils savent tellement de choses qu'ils sont certains d'appartenir à Dieu. Laodicée produisait des vêtements de fine laine noire, mais la Bible dit qu'ils sont nus et qu'ils ont besoin de vêtements blancs. Ils ont besoin de vêtements blancs. C'est fascinant comment Dieu utilise des situations physiques comme celle-là pour nous aider à comprendre des dimensions spirituelles. Dans un sens, les Laodicéens n'ont pas les éléments essentiels de l'armure spirituelle. Ils n'ont pas la foi, l'amour, la persévérance, l'engagement nécessaire envers la vérité et le respect profond des commandements. Et ils ne s'appliquent pas à utiliser le Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas capable de réussir soi-même à vaincre, mais par le Saint-Esprit, on peut y arriver. Mais ils ne l'utilisent pas, ils ne le demandent pas suffisamment, ils ne le mettent pas assez en pratique. Ils ne s'appliquent pas à utiliser le Saint-Esprit, à tenir ferme dans les moments d'épreuve. Et c'est là qu'il faut tenir ferme, quand il y a une épreuve. Quand il n'y a pas d'épreuve, c'est facile. Mais quand il y a une épreuve, c'est là qu'il faut tenir, c'est là qu'il faut crier en haut pour avoir l'aide dans les moments d'épreuve et à prêcher l'Évangile en vigueur. M. Ames pose trois questions. Est-ce que nous acceptons d'être corrigés? Est-ce que nous acceptons d'être corrigés? Deuxième question, sommes-nous vraiment soumis à la vérité? Sommes-nous vraiment soumis à la vérité? Et troisièmement, sommes-nous disposés à nous tenir debout sans faire de compromis par rapport à la vérité? Sommes-nous vraiment disposés à nous tenir debout sans faire de compromis par rapport à la vérité? Monsieur Meredith a écrit un article puissant concernant ça dans le Living Church News de septembre-octobre 2011. Je le cite. « Si plusieurs d'entre nous continuent d'avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église, nous ne pouvons pas avoir la foi nécessaire parce que l'un des grands destructeurs de la foi, c'est la culpabilité. » Pensez-y, puis regardez vos expériences passées. Un des destructeurs de la foi, c'est la culpabilité. Lorsqu'on se sent coupable et qu'on se sait coupable de quelque chose, ça diminue la foi, ça nous éloigne de Dieu. Et c'est intéressant parce que M. Ames donne une expérience qu'il a faite il y a une vingtaine d'années et de laquelle il a appris. M. Ames dit, à un moment donné, je me sentais mal à l'aise devant Dieu. Je me sentais coupable devant Dieu, mais je ne savais pas trop qu'est-ce qu'il y avait. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui faisait que je me sentais coupable comme ça puis que je me sentais plus loin de lui. Puis il dit, Dieu m'a répondu, parce qu'il dit, dans les temps précédents, le moment où je lui ai demandé ça, je me suis rendu compte que j'avais augmenté mon temps d'antenne, c'est-à-dire j'avais augmenté le temps de regarder la télévision. Je passais plus de temps à regarder la télévision et moins de temps à prier, jusqu'à même à un certain moment donné ne plus prier. Donc, j'étais coupable de ça, d'avoir un autre Dieu devant ma face. Là, c'est moi qui explique. Mais il s'est rendu compte de ça et Dieu lui a montré. Il a corrigé ça. Et ça a bien été après. Mais il dit, j'ai réalisé. Et il explique le phénomène qui se passe. Et ça, ça peut vous aider. Et ça peut m'aider. Il dit, l'Esprit de Dieu vous montre les choses. Demandez à Dieu de vous montrer. Des fois, on se sent coupable, on ne sait pas au juste de quoi, comme lui était à ce moment-là. Il a demandé à Dieu de lui montrer. Dieu lui a montré. Il a pu changer et se rapprocher de Dieu encore. Il dit, l'Esprit de Dieu vous montre les choses. Il vous guide. Il vous amène à prendre conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et si vous faites quelque chose de mal, l'Esprit de Dieu vous aide en vous amenant à voir que vous faites quelque chose de mauvais et que ça doit être changé. M. Meredith continue dans son article en disant ceci, « Lorsque vous et moi faisons des compromis avec ce monde et avec Satan, nous diminuons notre propre foi. Voyez-vous, quand on fait des compromis, on s'en rend pas compte, mais ça attaque notre foi, ça gruge notre foi, ça diminue notre foi. Et nous nous éloignons de Dieu à ce moment-là. Chaque fois que nous faisons des compromis, notre foi est diminuée et on s'éloigne de Dieu. C'est logique. C'est logique. Il ne faut pas faire de compromis. Le Christ veut que nous tirions profit des leçons des sept églises. C'est pour ça qu'il dit, à la fin de chaque étape où il décrit une phase de l'Église dans le temps, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Est-ce qu'on est philadelphien? Sommes-nous philadelphiens? La première caractéristique, je vous en donne quelques-unes très rapidement. La première caractéristique d'un philadelphien, c'est d'avoir l'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres dans l'Église. De se préoccuper des autres, de prier pour les autres, de servir dans l'Église, d'encourager, de consacrer du temps, de prêter oreille, de pardonner lorsque quelqu'un nous offense ou nous pile sur les pieds, pour ainsi dire, de passer par-dessus. C'est des choses qu'on doit faire. Regardez Galates 6, Galates chapitre 6. Et le verset 9 et 10. Qu'est-ce qui nous est dit? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et ce temps approche, le temps du retour de Christ. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Romains 12, verset 9. Commençons au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance les uns pour les autres. Ayez du zèle. Voyez-vous, on revient là-dessus. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Voici l'amour fraternel. Et Philadelphie, ça veut dire les frères qui s'aiment. Ou l'amour fraternel. C'est pas pour rien que c'est cette Église-là qui porte ce nom-là, le nom de l'amour fraternel. Deuxième caractéristique qu'on peut aller, vous pourrez voir 1 Thessaloniciens 4, 9 à 11 dans le même sens. Ça va vous aider à continuer une étude personnelle là-dessus, où il nous est dit de faire du bien autour de nous, mais en même temps d'avoir un équilibre. Il nous dit clairement, comme M. Appartient nous répétait souvent, aidez les autres, soyez attentifs à leurs besoins, mais sachez vous mêler de vos affaires. Ne pas empiéter sur le terrain des autres de façon inacceptable. Il faut respecter les autres. La deuxième caractéristique des Philadelphiens, c'est de montrer leur foi en faisant des œuvres. Montrer leur foi en faisant des œuvres. Apocalypse 3. On revient à Apocalypse 3, verset 7. Ici, on voit que c'est l'Église de Philadelphie qui a commencé sous M. Armstrong. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, et personne ne pourra fermer la porte pour l'annonce de l'Évangile d'ici la fin devant nous, même si nous sommes petits. » Au contraire, Dieu va ouvrir cette porte-là jusqu'à ce que lui décide que la porte est fermée et que là, il n'y aura plus possibilité d'annoncer l'Évangile. Ça, on le sait par les textes. Verset 8. « Je connais tes œuvres. » Il parle des Philadelphiens. « Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. » Non pas que tu as rejeté mes lois, mais tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. On s'appelle l'Église de Dieu. On ne s'appelle pas l'Église de n'importe quoi. On s'appelle l'Église de Dieu. Et le... Observer le nom de Dieu ou honorer le nom de Dieu, ça veut dire marcher comme lui nous dit de marcher également. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer pour l'instant. C'est ça. Et vous pourrez aller voir dans Colossiens 4, verset 3, Colossiens 4, verset 3 et 2 Corinthiens 2, verset 12, où l'apôtre Paul dit que lorsqu'il parle d'une porte ouverte, c'est justement le moyen d'annoncer l'Évangile. C'est ce qu'il nous est donné. Alors, les Philadelphiens ont à cœur de participer avec zèle et attentivement à la proclamation du message de Christ. C'est pas pour rien qu'il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Même ceux qui ne vont pas à la télévision ou donner des conférences publiques parce que c'est le rôle des ministres, ceux qui soutiennent ça par leurs prières, par leurs dîmes, par leurs offrandes, par leurs encouragements, c'est faire l'œuvre, c'est ça, être la lumière du monde également. Et on doit faire ça avec foi. Et si on le fait avec foi, dans une atmosphère de foi, Dieu va nous bénir encore davantage. Plus on sera en train de s'appliquer à lui obéir, en le suppliant de nous aider, de nous purifier et de nous donner de finir son œuvre, plus Dieu va se manifester et il va nous donner de la finir l'œuvre. Mais n'oubliez pas une chose, on a des travaux à faire, travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Romains 10, verset 17, vous irez voir, c'est bien écrit clairement. La foi qu'on a besoin pour terminer l'œuvre, la foi, ce n'est pas votre foi, ce n'est pas ma foi. Ce n'est pas une foi humaine. La véritable foi, elle nous est donnée. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. C'est de là que vient notre foi. Et c'est de là que vient notre force. Et c'est absolument nécessaire. Une foi véritable est démontrée par nos œuvres. Vous irez voir dans Jacques 2, versets 14 à 18, où Jacques exprime clairement que c'est par nos actions qu'on démontre qu'on a la foi. C'est pour ça qu'il nous mérite le salut. Mais c'est par nos actions, c'est par nos œuvres. Notre foi se prouve par nos actions. Vous savez, certains, et j'en connais bon nombre, ont risqué même de perdre leur emploi lorsqu'ils ont commencé à observer le sabbat. C'était tout un défi, là. Parce que certains mettaient leur emploi en jeu, leur gagne-pain, là. Et ils ont, dans beaucoup de cas, risqué leur emploi. Et certains l'ont perdu. Mais ils ont été bénis par la suite. Il faut voir la fin de l'histoire aussi. Il faut voir ce que Dieu a fait. Parce que Dieu n'abandonne pas celui qui se tourne vers lui pour lui obéir. La question qu'on se pose à ce moment-là, j'ai déjà eu à me la poser aussi, est-ce que je vais aller de l'avant avec foi ou si je vais d'abord garder mon emploi sans obéir à Dieu? Ça, c'est la question qu'on doit se poser quand Dieu nous appelle puis il nous met devant les choix. Et il nous place devant les choix justement pour qu'on s'exerce à faire les bons choix et qu'il puisse nous bénir. Et ceux qui le font, Dieu les bénit inexorablement. Je vais vous donner un exemple intéressant qui est arrivé ici, pas ici, mais à Hong Kong. Vous savez que depuis au-delà d'un an, nous avons des émissions qui sont diffusées en télévision Hong Kong, avec des sous-titres chinois. On a une petite sœur là-bas maintenant qui est baptisée dans l'Église. Et elle a vécu quelque chose de spécial, vous allez voir. Elle a écrit à M. Weston, qui présente les émissions anglaises justement à Hong Kong, pour lui décrire ce qui lui était arrivé. Elle était nouvelle dans l'Église, elle était baptisée. Et c'était sa première fête des tabernacles, la fête des tabernacles dernière. Regardez ce qui est arrivé. « Bonjour, M. Weston. Merci beaucoup de continuer de prier pour moi. Ma patronne et moi avons eu un différend parce que ses clients des États-Unis ont soudainement mis à l'agenda une réunion devant avoir lieu durant la fête des tabernacles. La fête approchait. Elle ne voulait pas que je m'absente. Je lui ai dit que je devais absolument m'y rendre. Je lui ai tout expliqué en ajoutant que j'étais même prête à perdre mon emploi s'il le fallait pour aller célébrer cette fête de Dieu. » Elle était dans une situation assez tragique. « Nous avons donc laissé sa fille seule ici. Elle a pris l'avion, cette dame-là, pour les États-Unis et moi pour les Philippines. Grâce à Dieu, tout s'est arrangé. Je m'attendais à ce qu'elle me traite durement à mon retour à Hong Kong. Mais à ma plus grande surprise, elle m'a traité encore mieux qu'avant. Et elle était heureuse de me voir revenir. Elle a même demandé si mes vacances s'étaient bien déroulées et si j'étais heureuse de mon voyage parce que j'avais vu ma famille. » Parce que sa famille est aux Philippines, là où elle est allée pour la fête. « Quand je lui ai raconté que je n'avais pas vu ma famille parce que j'étais allé là-bas seulement pour célébrer la fête, elle m'a dit, « Tu aimes vraiment ton église plus que ta famille? » J'ai dit oui. Elle m'a alors remboursé le billet d'avion. Regardez bien, quand Dieu dispose le cœur de quelqu'un envers quelqu'un qui veut lui obéir, c'est fort. Sa patronne, elle lui a remboursé le billet d'avion qui m'avait permis de me rendre à la fête et m'a déclaré que si je voulais aller voir ma famille, bénédiction additionnelle, je n'avais qu'à lui dire qu'elle me laisserait partir et me donnerait aussi le montant nécessaire pour mon billet d'avion pour aller voir sa famille cette fois-là. Ces paroles m'ont vraiment réjoui et au fond du cœur, j'étais envahi par une joie qui me faisait pleurer et remercier Dieu de toujours être là pour arranger les choses en ma faveur. » Une toute petite bonne femme à Hong Kong devant sa patronne d'une grande entreprise et Dieu a disposé son cœur dans des circonstances impossibles. Dieu est le Dieu de l'impossible. « Même si je suis toute seule ici, le fait de penser que vous priez pour moi, l'amour fraternel, et que d'autres frères et sœurs le font aussi, qu'ils se préoccupent de moi, me réjouit beaucoup. » et je remercie Dieu continuellement de me donner ses appuis. J'ai passé une merveilleuse fête aux Philippines et me réjouis déjà en pensant à la prochaine. Sincèrement, Rizaline. Alors voici une attitude philadelphienne, totalement. Il y a des œuvres et il n'y a pas de compromis. Il y a des œuvres et il n'y a pas de compromis. Certains viennent en contact avec l'Église de Dieu, mais n'ont pas le courage d'avancer avec foi. C'est triste. Parfois, on voit ça. Et ils continuent de faire des compromis, soit de travailler le sabbat, ou soit de ne pas aller à la fête, ou de travailler au moment de la fête, et ainsi de suite. Il faut avoir la foi. Il faut faire confiance à Dieu. Dieu répond. Dieu bénit ceux qui se tournent vers lui. Il faut avoir foi. Avoir confiance que Dieu va s'occuper de nous. Il faut avoir une foi avec les œuvres, comme vous allez voir dans Jacques 2, versets 19 à 24. Jacques 2, versets 19 à 24. Troisième caractéristique, rapidement, c'est que les Philadelphiens utilisent justement les portes qui sont ouvertes pour annoncer l'Évangile. Et comme vous le savez, 2013 et là maintenant 2014, Dieu ouvre des portes extraordinaires. Nous allons maintenant par réseau télévisé, par satellite, dans des endroits qui nous étaient inaccessibles avant. Nous diffusons même en langue russe et en d'autres langues. Nous couvrons maintenant la Russie, Sud-Afrique, Amérique latine, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et laissez-moi vous raconter quelque chose. Comment Dieu bénit son œuvre à ce moment-ci de l'histoire? Lorsqu'il a été question d'avoir une nouvelle station de télévision, où c'est un satellite, mais très important, qui couvre une grande partie de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, c'est un réseau de télévision qui nous donne accès à 40 millions de foyers. 40 millions de foyers. On n'avait pas accès à ça pour diffuser nos émissions. Maintenant, on l'a. Mais regardez comment que ça s'est passé. À un moment donné, M. Meredith, après réflexion, après des prières, après avoir discuté avec le Conseil des anciens et sans doute jeûné, à un moment donné, une journée, il a pris la décision, oui, on achète le temps d'antenne sur cette antenne-là. Ça rejoint 40 millions de foyers possibles en langue espagnole. Il faut y aller. Alors, regardez ce qui s'est passé, parce qu'on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent pour y aller. On n'est pas une église riche. Mais le même jour, il y a quelqu'un qui a envoyé un don à l'église. Ça coûtait 39 000 $ pour une année sur ce grand réseau-là. Je ne sais pas combien de fois par semaine, là, mais pour une année, c'était 39 000 $ Le même jour, on a reçu un don d'une personne, 40 000 $ Une personne qui a envoyé 40 000 $ ce même jour-là, où M. Meredith venait de prendre la décision d'aller annoncer l'Évangile sur ce réseau-là. Est-ce qu'on ne sert pas un Dieu qui est puissant, qui intervient au bon moment, comme il est intervenu pour la petite bonne femme là-bas à Hong Kong dans ce qu'elle avait à vivre? C'est formidable. Goûtez ces choses-là, appréciez ce que Dieu fait, voyez-le. Regardez sur nos réseaux sociaux comment nous sommes de plus en plus présents et comment le témoignage de l'Évangile devient accessible aux gens. Quatrièmement et dernier point que je vous donne, c'est que les Philadelphiens, ils ont peu de puissance. Ils ont peu de puissance, mais ils comptent sur le Christ. Apocalypse 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. » Il parle des Philadelphiens ici. « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte pour annoncer l'Évangile que personne ne peut fermer. » C'est vrai qu'on n'est pas les grands et les puissants du monde, ni les riches du monde, absolument pas. Dieu pourrait utiliser, s'il fallait, des pierres pour parler. Il le dit à certains endroits dans sa parole. Mais il utilise plutôt des gens simples, des gens faibles, et nous devons développer les talents, nous devons mettre les efforts pour faire le travail, mais il est avec nous. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 1, verset 26-27. 1 Corinthiens 1, verset 26-27. « Considérez, frères, que parmi vous, qui avait été appelé. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles et folles du monde pour confondre les sages. » C'est ça. Dieu a choisi des enfants faibles pour accomplir une œuvre grandiose, pour que le monde sache, à un moment donné, que ce n'est pas par notre force, mais que c'est par la force de Dieu. C'est comme si Dieu disait, « Mon œuvre, là, je vais la faire par des tout-petits-enfants, par ceux que je vais appeler, les tout-petits que je vais appeler. » Et il appelle des gens de tout peuple, de toute nation, de toute langue actuellement. Et c'est formidable pour préparer une équipe complète après le retour de Christ. Alors regardez dans Zacharie 4, verset 6, Dieu le dit clairement, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. » C'est notre cas, il dit, « Vous avez peu de puissance. » « Ce n'est ni par la puissance humaine, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et c'est par ça seulement que nous allons pouvoir terminer l'œuvre. si nous restons humbles, si nous supplions Dieu de nous donner ce que nous avons besoin pour y arriver. En décembre 2012, l'Église a honoré M. Meredith. Vous savez pourquoi? Pour son 60e anniversaire dans le ministère. Ça faisait 60 ans qu'il était ministre de l'Église de Dieu. Un homme qui a servi Dieu toute sa vie, qui le sert encore, même s'il est handicapé. Vous voyez avec quel zèle il le fait, comment il se pousse, comment il fait des efforts pour aller annoncer l'Évangile partout où il peut. Il travaille des semaines énormes. Maintenant, il vient de perdre sa deuxième épouse. Malgré ce deuil, il continue, il fonce de l'avant pour terminer le travail. Alors, ce décembre 2012, lors de son 60e anniversaire de ministère, il y a une plaque souvenir qui lui a été remise et qui mentionnait dessus d'où vient la force qu'il a. Elle ne vient pas de lui, comme elle ne venait pas de M. Armstrong. Et M. Armstrong utilisait le même verset qui a été mis sur la plaque offerte à M. Meredith. M. Armstrong utilisait le même verset pour dire d'où lui venait la force qu'il avait, même quand il a dépassé 90 ans et qu'il continuait à servir l'œuvre avec force et puissance. Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. C'est fantastique quand on voit les choses dans cette perspective-là et c'est tellement encourageant. Ésaïe, chapitre 40, versets 28 et 29. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Et regardez, il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence, tellement il est grand, tellement il est puissant. » Maintenant, regardez le verset 29. « Il donne la force à celui qui est fatigué. » Ou à celui qui est vieux, ou à celui qui est malade, celui qui a besoin de Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et plusieurs de nous sont faibles physiquement. Alors, on peut demander à Dieu de nous donner la force, même si nous sommes faibles physiquement. Et quand nous demandons cette force-là pour accomplir son œuvre, pour développer son caractère, pour encourager les autres, Dieu répond. Dieu répond à ceux qui se tournent vers lui pour faire sa volonté. Versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Pourtant, les adolescents, c'est solide, hein? On se rappelle, quand on était jeune, on pouvait faire des grandes journées de travail. Nous, on travaillait sur la ferme des heures et des heures et des heures. Et parfois, on allait dormir 2-3 heures, on se relevait, on recommençait. Et on était en pleine forme. On avait beaucoup de vigueur. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Même s'ils sont pleins d'énergie, ils se vident. Ils ont besoin du 2 heures de sommeil ou du 3 heures de sommeil qu'ils ont dans une nuit, parfois. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, quel que soit leur âge, quel que soit leur état, lorsqu'ils veulent faire sa volonté. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. M. Meredith, pour la deuxième fin de semaine de suite, est encore en train de donner des conférences du monde de demain dans la région du Texas, après avoir prêché au sabbat, à son âge, dans son état de santé, après avoir eu les ACV qu'il a eu. Et M. Ames, dans son sermon, disait quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il dit, lors de ma première fête des tabernacles, c'était en 1961, c'était au Texas, M. Richard Ames. Il dit, j'ai vu un homme âgé qui venait d'être loin et qui marchait avec difficulté en traînant une de ses jambes, en avançant péniblement. Il dit, je lui ai dit, vous semblez vous tirer assez bien d'affaires, monsieur. Il dit, l'homme m'a répondu, je suis vraiment faible. Regardez bien, je suis vraiment faible. Je ne fais que bouger mes jambes. Et je prie Dieu de me donner la force de continuer d'avancer. Voyez-vous? Il dit, oui, je suis faible. Je fais juste avancer lentement. Ce que je demande à Dieu, c'est de me donner la force de continuer d'avancer, tout simplement. Et plusieurs de nous sont un peu comme ça, je sais. Et on doit faire notre part. On doit, bouger nos jambes. Et avoir foi que Dieu nous donnera la force de marcher et de finir cette œuvre-là. On vient de le voir, la promesse au verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. C'est-à-dire que Dieu leur donne sa force. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 13, dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, on a vu, pas toutes les caractéristiques, mais 4 des caractéristiques des Philadelphiens, ce que nous devons être. L'amour fraternel, d'abord. Ensuite, agir selon les lois de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, utiliser les portes que Dieu ouvre pour annoncer l'Évangile, et quatrièmement, s'appuyer sur le Christ, d'où nous vient notre force. En terminant, allons à Apocalypse 3. On retourne à Apocalypse 3 et nous allons lire à partir du verset 11. Apocalypse 3, verset 11. On est toujours dans la description de l'Église de Philadelphie, qui a peu de puissance, mais qui a gardé les lois de Dieu, qui annonce l'Évangile. Regardez le verset 11. « Je viens bientôt. » Voyez-vous que ça s'adresse à l'époque où nous sommes? Parce que le Christ revient bientôt. C'est notre époque. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Verset 12. « Celui qui vaincra. » Voyez-vous, ça, c'est une condition. Il faut vaincre avec l'aide de Dieu. « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Et il n'en sortira plus. Il fera partie du gouvernement éternel. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. C'est le Christ qui parle. Et il prend bien soin de répéter encore, verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et en terminant, vous irez voir Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Paul nous encourage encore en nous montrant d'où nous vient la force pour passer à travers ce que nous vivons maintenant et ce que nous allons avoir bientôt à vivre pour sortir victorieux de l'autre côté et avoir accès à la vie éternelle et même avoir accès à la protection de Dieu, même d'être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent. Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Pas par nos forces. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés et qui continue de nous aimer et qui va tout faire pour mettre toutes les chances de notre bord pour qu'on y arrive. Si nous sommes de fidèles philadelphiens.